Hello les copines, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un épisode sur le fait de s'aimer soi-même et d'oser être soi. Je suis vraiment désolée en avance, il y a énormément de bruit dans mon immeuble et je pouvais vraiment pas l'enregistrer à un autre moment, sinon je vous l'aurais sorti en retard. Donc j'ai pas trop le choix que de le tourner là tout de suite. Et donc vous allez peut-être entendre des bruits en fond parce qu'il y a mon voisin qui a 2 ans qui court partout chez lui et je crois qu'il y a ses cousins et tout. Bref, on s'en fiche un peu, mais en tout cas s'il y a du bruit derrière moi, je suis vraiment désolée. J'espère que ce sera pas trop gênant. À la base, je voulais vous faire un épisode sur comment être soi-même. Sauf que je me suis rendu compte que si je vous faisais pas d'abord un épisode sur le fait de s'aimer soi-même, ça va forcément être compliqué d'oser être vous-même si vous avez déjà du mal à vous porter de l'amour. Si on s'aime pas, si on s'accepte pas, c'est forcément compliqué d'oser s'assumer aux yeux des autres. D'ailleurs, vous avez été nombreuses à me demander comment faire pour ne plus faire attention au regard des autres, comment accepter le fait qu'on ait des défauts, des faiblesses, comment prendre confiance en soi. Mais j'ai déjà des épisodes de podcast sur tous ces thèmes-là là, que je viens de citer, donc je vous invite à aller les écouter avant d'écouter ce podcast-là. Ça va sûrement vous donner des clés dont vous avez besoin et que je vais pas forcément développer là dans cet épisode. Donc, on va déjà commencer avec tout ce qu'il faut faire pour s'aimer soi-même. Je vais vous faire un petit résumé. Peut-être que je ferai du contenu un jour pour vraiment faire un truc bien détaillé sur ça. Mais je pense que si vous suivez tous les trucs que je vais dire là, vous ne pouvez que vous aimer. Ce sera pas en un claquement de doigts, évidemment. Mais si vous faites ça vraiment sur des semaines et que vous y pensez quotidiennement, vous allez forcément apprendre à vous aimer. Donc la première étape, déjà avant tout, c'est de prendre la décision de commencer à s'aimer. Il faut se dire, ça y est, j'en ai marre de vivre comme ça. Je vais devoir prendre soin de ma relation avec moi-même. Je le décide. Il faut que ce soit une envie, un choix, que vous preniez cette décision et ça y est, vous avez le déclic, vous voulez vous aimer vous-même. Et l'étape la plus facile avec laquelle commencer, c'est déjà prendre soin de son corps, prendre soin de l'enveloppe avec laquelle on vit tous les jours, parce qu'il y a notre esprit, mais il y a surtout notre corps avec lequel on bouge, etc. Il ne faut pas le négliger non plus parce que ça fait partie de nous et c'est avec lui qu'on passe notre vie entière. Donc il faut avoir conscience qu'on est dans notre corps. En fait, je dis ça parce que c'est vrai qu'à un moment dans ma vie, je me détestais. Et quand on s'aime pas, on est beaucoup dans notre tête, beaucoup dans notre mental, et on peut parfois se détester au point de ne même plus faire attention à nous physiquement. On n'a même plus conscience de notre corps. Et avant, vraiment, quand j'étais dans cette phase où je me détestais, je prenais jamais le temps de me sentir pleinement dans mon corps. En fait, j'y pensais même pas. Quand on se déteste, en fait, on fait tout pour ne pas trop se regarder, ne pas trop se toucher. On ignore notre corps, en fait. On le repousse carrément. Donc apprenez à vous toucher. Apprenez à vous faire du bien. Je parle pas en termes sexuels ou quoi, mais prenez le temps de ressentir, par exemple, quand vous mettez de la crème, prenez le temps de ressentir le fait que vous prenez soin de votre corps, que vous prenez soin de vous au final. Je suis sûre que vous vous mettez déjà sûrement de la crème sur le corps pour avoir la peau hydratée. Mais est-ce que vous le faites vraiment en prenant soin de vous comme vous prendriez soin de quelqu'un d'autre? En fait, il faut décider dans ces moments-là, de se donner de l'amour à soi-même. Comme les moments où vous faites votre skincare, etc., il faut que vous preniez conscience à chaque fois que vous le faites, que vous vous donnez de l'amour avec ces actes-là. Pareil quand vous faites du yoga, par exemple, et c'est pour ça que je l'ai inséré dans ma morning routine, c'est que le premier truc que je fais le matin, c'est de prendre soin de mon corps, directement. Pour bien m'ancrer, pour bien être dans ma journée, pour bien prendre conscience que j'ai un corps, qu'il faut que j'en prenne soin. Ça paraît bête comme ça, mais quand on commence vraiment à un niveau où on s'aime pas du tout, ça fait vraiment, vraiment du bien de commencer par là. Et d'accorder au moins un temps par jour pour prendre soin de notre corps. Pour s'aimer soi-même, il faut aussi réussir à se porter de la bienveillance. Je vous en ai déjà souvent parlé, mais réussir à se voir d'un œil extérieur, sans juger tout ce qu'on fait, parce que c'est vrai qu'on a tendance à être dur avec nous-mêmes, et c'est naturel d'être plus dur avec soi-même qu'avec les autres, mais malgré le fait que ce soit naturel, c'est pas forcément sain et normal. Ça nous fait plus de mal qu'autre chose, donc prenez bien conscience que vous êtes humain, et que vous avez le droit de faire des erreurs. Vous avez des défauts comme tout le monde, et c'est pas grave, vous pouvez travailler dessus pour les améliorer. Et d'ailleurs, c'est là qu'il faut faire attention. Certaines choses chez vous que vous pouvez percevoir comme étant des défauts n'en sont pas forcément, mais ça, on va en reparler un petit peu plus tard dans cet épisode. En tout cas, pour être bienveillant envers soi-même, je trouve que c'est important de réaliser et de se le dire à soi-même quand on a fait du mieux qu'on le pouvait, même si on n'a pas fini premier. On a fait du mieux qu'on le pouvait, on le réalise, et c'est suffisant. Il faut jamais vous blâmer pour avoir tout donné, c'est insensé. Parfois, on peut se dire qu'on aurait pu faire mieux, mais pas forcément. Et d'ailleurs, ça peut aussi être parce que vous avez vu d'autres personnes faire mieux que vous. Sauf que vous n'êtes pas eux, donc c'est inutile de vous dire ça. Même si on n'en a pas forcément l'impression, je pense qu'en tant qu'humain, on fait déjà du mieux que l'on peut tous les jours de notre vie. Même quand on n'y arrive pas, c'est juste qu'on a trop poussé nos capacités et qu'on a besoin de souffler, de prendre du repos, de prendre soin de soi, de se chouchouter un peu jusqu'à ce qu'on se sente prêt à repartir de plus belle. Apprenez à être fier de vous aussi. Si quelque chose a été difficile à surmonter, peu importe combien ça peut paraître difficile ou facile aux yeux des autres, si pour toi il y a eu de la difficulté, alors sois fier d'avoir tenu et d'avoir affronté ça. Et encore une fois, je le rappelle, si t'as lâché, c'est que t'as juste été au bout de tes capacités et que tu pouvais plus. C'est pas de ta faute, ça veut pas dire que t'es nul. On a tous des degrés de tolérance à certaines choses, et moi la première, hein, en étant hypersensible, je sais que mon degré de tolérance pour la plupart des émotions, sont plus faibles que des personnes qui ne sont pas hypersensibles. Mais c'est comme ça, on peut pas s'en vouloir d'être né comme ça, vous voyez. Si une personne que t'aimes énormément te dit qu'elle est nulle juste parce qu'elle n'a pas réussi un contrôle de maths, par exemple, je sais pas, tu la rassurerais en lui disant qu'elle a fait du mieux qu'elle a pu pendant le contrôle et que c'est pas grave, qu'elle pourra se rattraper ailleurs avec d'autres matières. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu fasses la même chose avec toi. Faut que tu prennes l'habitude de te dire à toi-même ce que tu dirais à ton amie si elle était dans le même cas que toi. De toute façon, le centre de l'amour de soi, pour moi, c'est vraiment de se traiter toujours, toujours soi-même comme étant notre propre meilleur ami. Dès que tu t'adresses à toi-même, dès que tu te dis quelque chose sur toi-même, demande-toi « Est-ce que j'aurais dit ça à ma meilleure amie ?» Si la réponse est non, c'est qu'il faut que tu changes le discours que tu te portes. Pour avoir de la compassion aussi envers soi-même, il faut aussi se rendre compte de ses pensées et de ses émotions, mais ça, je vous en ai déjà parlé en détail dans les deux épisodes sur les pensées et les émotions. Donc pour résumer rapidement, nommez vos émotions quand vous en ressentez, plusieurs fois par jour. Parce que par exemple, se sentir mal, c'est pas forcément une émotion, c'en est pas une du tout en fait. Mais il y a une émotion qui se cache derrière le fait que vous sentiez mal. Donc nommez-la, c'est quoi par exemple? De la tristesse peut-être? Ou alors si vous vous sentez énervé, c'est peut-être de la frustration qui se cache derrière. Ça, c'est un petit travail à faire, mais vous pouvez analyser tout ça avec un tas de manières, donc le matin faisant du journaling, ou alors plusieurs fois par jour, vous pouvez aussi vous scanner et essayer de nommer les émotions que vous ressentez. Ça va vous aider à en prendre soin. Si tu te sens triste, regarde ce qui te ferait du bien. Et encore une fois, prends soin de toi en répondant toi-même à ton besoin. Tu te sens triste et t'as besoin d'appeler une amie? Fais-le. T'as besoin d'aller prendre une crêpe pour te remonter le moral? Fais-le. Prends soin de toi et tu vas voir que tu vas commencer à beaucoup plus t'aimer. Faites-vous passer avant le reste aussi. Ayez vraiment du temps dédié pour vous-même. Il y a forcément des activités que vous avez envie de faire mais que vous ne faites pas forcément parce que vous priorisez pas du temps pour ces choses-là. Souvent, c'est pas qu'on n'a pas forcément le temps, c'est qu'on ne prend pas le temps de se prioriser soi-même parce qu'on met d'autres choses en priorité. Mais ça, je comprends. Moi, je suis une grosse people pleaser. Avant, je mettais toujours les autres avant moi. Et maintenant, j'ai décidé de me mettre moi en priorité. En fait, il y a des choses dans ma vie qui sont pas négociables. Par exemple, je vais jamais ne pas aller à la danse pour quelqu'un d'autre. Bon, à part, c'est quelque chose de très grave. Mais s'il y a une amie que je peux voir qu'à ce moment-là, je vais quand même me prioriser et je vais aller à la danse. Parce que c'est un moment qui est dédié pour moi. C'est un moment qui est important pour ma relation avec moi-même, et ma relation avec moi-même passe avant ma relation avec les autres. Ça peut paraître un petit peu égoïste comme ça, parce que la société nous fait croire que c'est égoïste, mais je vous jure que c'est tellement important pour vraiment bien se sentir avec soi-même, et on n'est pas forcément obligé de devenir égoïste en étant comme ça. Il faut juste vraiment savoir trouver le juste milieu dans toutes ces choses-là. Il faut savoir être juste. Parce que la plupart du temps, c'est vrai qu'en étant humain, on a tendance à aller dans les excès, donc soit à être égocentrique et vraiment ne plus faire attention aux autres et du coup se passer avant tout le monde, mais beaucoup trop, et là on devient égoïste. Ou alors soit on fait passer tout le monde avant nous, tous les plaisirs des autres avant nous, et là on se perd nous-mêmes. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de me fixer juste des petites règles qui sont pas négociables. Il y en a d'autres qui le sont et d'autres qui ne le sont pas. Genre le matin et le soir, c'est obligatoire pour moi d'avoir des moments pour prendre soin de moi, et ça c'est pas négociable. C'est comme si t'étais en couple aussi avec toi en fait. T'es obligé d'avoir du temps pour la personne que t'aimes. Alors pourquoi on n'en prend pas forcément pour nous-mêmes? C'est exactement la même chose. Et évidemment, pour trouver ce juste milieu, vous avez le droit parfois de faire passer d'autres choses avant vous, mais pas tout le temps quoi. Moi je pense qu'une bonne petite règle que vous pouvez vous mettre, c'est vraiment deux moments dans la semaine où vous faites vraiment plaisir avec des activités, plus des moments avec vous-même aussi le matin et le soir. Et c'est pour ça qu'il y a une grande importance à avoir une bonne morning routine le matin et une bonne nighttime routine le soir, parce que c'est un petit peu des moments privilégiés avec vous-même. Plus vous pouvez aussi avoir un petit moment, donc je sais pas, le dimanche après-midi, vous faites toute votre skincare, etc. Et ça, pareil, c'est pas négociable parce que c'est un moment important pour vous-même. Plus un autre moment où vous faites une activité, donc moi c'est la danse, mais vous pouvez très bien faire de la peinture, vous pouvez très bien aller boire un petit café en lisant un livre. Mais en tout cas, je pense que c'est une bonne petite base d'avoir deux moments dédiés pour soi de 2-3 heures par semaine, plus le matin et le soir. Et dans ces moments-là, c'est important d'avoir du plaisir avec vous-même. Il faut que vous passiez du temps dédié à votre propre plaisir personnel, en fait. C'est un des meilleurs moyens pour s'apporter de l'amour, de passer des bons moments avec soi-même. D'ailleurs, c'est un sujet que j'aborde un peu plus profondément dans mon podcast La Solitude, donc si ça vous intéresse, si vous avez du mal à passer du temps avec vous-même, je vous conseille d'aller l'écouter parce que c'est un épisode intéressant pour ça. C'est important aussi de garder ses engagements envers soi-même. Parce que imaginez qu'une de vos amies vous promet des choses à chaque fois. Et après, au final, bah, elle tient jamais ce qu'elle dit. Donc c'est exactement pareil que si toi, tu te promettais de commencer à passer du temps avec toi-même, de commencer à plus prendre soin de toi, et à chaque fois, au final, bah, tu procrastines et tu repousses. Imagine ton amie, elle te fait ça. Bah, tu le prendrais mal. Et forcément, ça dégrade votre relation. Et bah, c'est exactement pareil. On s'en rend pas forcément compte parce que forcément que notre petite voix dans la tête, elle va pas nous dire « Ouais, je te déteste. Ouais, tu tiens jamais tes engagements, etc. » Mais dans notre inconscient, ça fait vraiment cet effet-là qui fait que c'est difficile de s'aimer soi-même quand on ne tient pas toutes nos promesses envers nous-mêmes. Si vous voulez avoir du respect pour vous, de l'estime pour vous, il faut que vous respectiez les choses que vous vous promettez seul. Donc voilà, tout ça pour moi, c'est vraiment la clé pour s'aimer soi-même. Si vous gardez tout ça en tête, que vous l'appliquez au quotidien, vous ne pouvez que nourrir cette relation avec vous-même, la chérir, et c'est en donnant de l'amour à cette relation entre toi et toi-même que tu vas commencer à t'apporter de l'amour, à t'aimer, à t'accepter entièrement, etc. Maintenant que j'ai posé les bases, parlons du fait d'oser être soi. On m'a beaucoup demandé sur mon compte Instagram, mais pourquoi on a peur d'être soi-même ? Je pense que c'est beaucoup le regard des autres. Et on m'a aussi beaucoup demandé pourquoi les gens nous regardent mal parfois, pourquoi les gens nous jugent quand on est juste nous-mêmes. Bah, je pense que ça n'a aucun rapport avec vous. Je pense que ça a plutôt un rapport avec eux-mêmes et que ça les renvoie juste au fait qu'eux n'arrivent pas à assumer ce que vous vous assumez en essayant d'être vous-même aux yeux des autres. Je pense aussi que même si vous essayez de changer pour leur plaire, ils vous jugeraient quand même parce que quand on juge quelqu'un, c'est juste parce qu'on projette nos propres croyances limitantes en cette personne. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous vous jugez quelqu'un pour quelque chose, vous vous jugeriez aussi si vous faisiez la même chose qu'elle. Donc c'est pas contre vous que les gens portent des jugements, mais parce que ça active quelque chose en eux envers lesquels ils n'ont pas pris soin. D'ailleurs, c'est pareil avec vos copines qui trouvent tout et rien gênant. Elles s'aiment pas assez et elles ont quelque chose à soigner chez elles. Mais ça, j'en parle déjà dans le podcast sur le regard des autres, donc je vous invite à aller l'écouter si vous voulez développer ce sujet en profondeur. On va passer à une question un peu plus compliquée maintenant, mais comment savoir qui on est ? C'est ma question favorite, parce que pendant des années, j'ai vraiment galéré à savoir qui j'étais vraiment. Et dès que j'ai commencé à me comprendre mieux, enfin vraiment, ça a tout débloqué dans ma vie. Et c'est vraiment une question qui est revenue énormément, et je vous jure que la petite Evel de 15 ans, elle aurait été choquée de voir le nombre de personnes qui savent pas vraiment qui ils sont réellement. Donc comme je vous l'ai dit, avant, je me détestais, j'aimais pas ma personnalité, je cherchais constamment à être un peu quelqu'un d'autre. Je voulais être extravertie, je voulais être capable d'élever la voix devant 10 personnes autour de moi sans être gênée, alors que bon, déjà ma voix en tant que telle ne me permet pas vraiment déjà d'élever la voix quand il y a 4 personnes autour de moi, parce que j'ai une petite voix, donc on m'entend pas trop. Et en fait, je voulais forcer tout plein de choses qui n'étaient pas vraiment moi, qui ne faisaient pas vraiment partie de moi, et je pensais que je le pouvais en plus, même si ça me paraissait difficile. Sauf qu'en fait, je voulais être comme ça parce que quand on est au lycée, c'est stylé d'avoir l'attention de tout le monde, de faire rire tout le monde, d'être apprécié par tout le monde. Et pour moi, pour correspondre aux critères de la société, pour être stylé, il fallait être comme ça. À ce moment-là, être calme, douce, un peu introvertie, ça allait pas avec l'image qu'on m'avait mis dans la tête d'une personne intéressante. En plus, j'avais mon ancienne meilleure amie qui me disait très souvent que j'étais trop lente, pas assez vive, trop sensible, pas assez dure. Et comme je vous l'avais dit, cette fille, je l'avais tellement mise sur un piédestal que je pensais que tout ce qu'elle disait était la vérité absolue. Parce qu'il y a des filles qui m'ont posé la question « Mais comment on fait quand on n'aime pas notre personnalité ?» Mais en fait, c'est pas que vous aimez pas votre personnalité, parce qu'on peut que aimer notre personnalité puisque c'est nous-mêmes. Je pense que c'est important de se poser la question « Est-ce que c'est vraiment moi qui n'aime pas ma personnalité, ou est-ce que c'est pas les autres qui m'ont mis en tête que je n'avais pas la bonne personnalité, entre guillemets ?» Ça peut aussi être vos parents, être la société qui vous a mis toutes ces choses-là en tête, mais qui vous êtes, vous ne pouvez pas ne pas aimer comme vous êtes, parce que quand on est, quand on vient sur Terre, on s'aime entièrement. Quand on est bébé, on se pose pas ces questions-là, et en fait c'est à partir de 8 ans qu'on commence à changer, qu'on commence à s'adapter à la société. Notre vraie personnalité, on l'a quand on est enfant. Et bref, on va revenir sur ça juste après, mais vous ne pouvez pas ne pas aimer votre personnalité. Je vous jure que c'est le reste, c'est les facteurs externes qui vous ont fait penser ça, mais c'est pas vrai. Et j'en reviens à ma petite histoire, mais du coup, vu que ma meilleure amie, elle pensait que c'était nul d'être comme ça, parce que elle pensait que c'était mieux d'être plus extravertie, etc., je pensais aussi que ça l'était. Alors que c'est positif d'être douce, d'être calme, mais j'essayais de renier ça, et quand tu renies ce que tu es vraiment, tu peux pas te sentir bien avec toi-même, tu peux pas t'aimer et tu peux encore moins être toi-même et assumer qui tu es aux yeux des autres. Et ça, c'est comme avec plein d'autres choses. Par exemple, le fait d'être sensible, c'est aussi vu comme quelque chose qui peut rendre certaines personnes plus faibles, entre guillemets, alors que c'est faux de penser ça. Quand on sait pas le gérer, oui, certes, ça peut être handicapant, mais ça peut être aussi une grande qualité parce que si on a plus de sensibilité pour les choses négatives, on en a aussi plus pour les choses positives. On a une meilleure intuition, on a une meilleure compréhension des autres et on peut mieux aider les autres parce qu'on a plus d'empathie. Et au final, ces caractéristiques-là, je les ai toujours eues dans ma personnalité malgré le fait que j'ai essayé de renier certains aspects de moi-même en étant adolescente. Mais quand j'étais enfant, j'étais une personne calme, sensible, curieuse, toujours positive, ce que je suis maintenant au final. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que pour moi, pour se rapprocher au mieux de sa personnalité, pour retrouver qui on est, il faut penser à ce qu'on était, à ce qu'on aimait quand on était enfant. Si t'aimais beaucoup le dessin, reconnecte-toi à ce côté-là de toi et refais du dessin. Si t'aimais la danse, refais de la danse. Si t'aimes chanter, fais du chant. Si t'aimais t'intéresser à l'histoire, à la géographie, réintéresse-toi à tout ça. Essaie de te concentrer sur toutes les choses que t'aimais, réintéresse-toi à elles. Perso, c'est un truc qui m'a fait vraiment beaucoup de bien, juste de faire la démarche de retourner faire de la danse. Je sais pas comment expliquer, mais se reconnecter avec les choses qu'on aimait avant, ça nous permet de nous reconnecter avec notre vrai nous. Je pense qu'il faut essayer de le faire pour pouvoir vraiment comprendre. Et d'ailleurs, si vous pouvez, faites-le seul, c'est encore mieux. Sinon, vous risquez d'être distrait par le monde extérieur et de ne pas juste rester dans votre monde intérieur exclusivement. Alors que c'est ça qui est important pour pouvoir se reconnecter à soi-même. Passer du temps seul aussi, ça peut vous faire du bien. Encore une fois aussi, le journaling. Faire de la méditation, s'introspecter en fait. S'auto-analyser. Il y a toujours aussi les 5 blessures qui peuvent nous empêcher d'être nous-mêmes. Donc la blessure de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice. Mais ça se travaille surtout en psychothérapie, c'est compliqué de travailler sur ces choses-là seul malheureusement, mais le livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même peut déjà bien vous aider en vrai. Pour savoir qui on est et ce qu'on aimerait être, on peut aussi analyser les personnes qui nous inspirent, à qui on aimerait ressembler et essayer de réfléchir à ce qui nous attire chez elles. Par exemple, en y réfléchissant, je pense que j'adorais Blair Waldorf parce qu'elle arrive à se faire respecter par les autres et c'est quelque chose qu'on peut travailler donc j'essaie de travailler là-dessus. J'adore Andiella parce que j'aime son côté perfectionniste, toujours clean, etc. Vous pouvez vous inspirer de plein de petites choses comme ça pour construire votre vrai vous. Après, attention, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais vous pouvez vous inspirer de certains traits de personnalité. Tant que ça révèle quelque chose en vous qui ne s'est pas encore réveillé, si vous savez que ça vous ressemble, que vous êtes comme ça au fond, même si vous n'avez pas encore révélé cette partie-là de vous, c'est qu'il y a quelque chose à creuser dans ce sens-là. Je pense qu'en fait, on sait qu'on est nous-mêmes, parce que cette question m'a été beaucoup posée aussi, comment on sait qu'on est nous-mêmes, mais on le sait... Je pense quand on sait qu'on n'a pas besoin de faire semblant et de calculer ce qu'on fait. Quand notre comportement est naturel et qu'on n'a pas besoin d'intellectualiser tous nos faits et gestes. Ça peut être intéressant d'ailleurs de faire un travail sur soi en définissant ce qui nous ressemble, ce que les gens très proches de nous disent de nous. Si votre vision est très floue par rapport à ça et que vous avez vraiment du mal à savoir qui vous êtes, perso, je vous invite à demander à vos proches quelles sont les caractéristiques de votre personnalité, comment ils vous définiraient, quelles sont vos qualités, et demandez aussi à vos parents, si ce sont des personnes saines évidemment, comment vous étiez quand vous étiez petit et ce que vous aimiez faire. Les sujets dont vous parliez souvent, les choses que vous aviez envie de faire, ça peut vous donner une piste plus claire du chemin à prendre. Mais je pense qu'une clé vraiment importante à bien comprendre, c'est de ne jamais se forcer à avoir un comportement en particulier au lieu de ce que ton vrai toi ferait. De toute façon, ça, c'est quelque chose qui se sent. À partir du moment où tu forces quelque chose en toi pour agir d'une certaine façon, c'est que tu ne laisses pas ton vrai toi s'exprimer. Par exemple, si dès que t'es en relation sociale, que t'arrives dans un groupe, ton attention est directement portée vers l'extérieur, donc par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de toi, en suranalysant tous les comportements autour de toi, en te disant « Oh là là, mais comment je dois agir pour qu'il me trouve cool ? Qu'est-ce que je dois faire ? Comment je dois agir pour qu'il puisse m'accepter ?» Bah tu vas même pas réussir à faire attention au fait que ton vrai toi, il a pas envie de changer ta personnalité juste pour eux. Tu vas pas non plus faire attention à la partie de toi qui est juste timide, introvertie, peut-être un peu mal à l'aise. En fait, on peut seulement reconnaître ces parties-là en nous quand on se laisse du temps, quand on souffle, quand c'est calme, quand on a un discours intérieur calme et qu'on se focalise sur soi, sur notre intérieur et pas sur l'extérieur. Et d'ailleurs, je pense que si on se sent toujours mal à l'aise avec les autres, peut y avoir 3 raisons. Donc la première raison, c'est que t'arrives peut-être pas encore à accepter et à aimer ta personnalité. Et dans ce cas-là, bah, c'est un travail d'amour et d'acceptation de soi avec les bases que je vous ai données au début de l'épisode. C'est ça que tu dois travailler tous les jours pour réussir petit à petit à développer cet amour envers toi-même. Et je vous jure que le jour où vous aurez réussi à développer cette relation d'amour solide avec vous-même, vous n'aurez plus de mal à assumer votre part de timidité, par exemple, parce que vous vous aimerez tout entier et vous n'aurez donc pas honte de vous. On n'a pas honte des défauts des gens qu'on aime plus que tout. Donc c'est exactement pareil dans ce cas. En fait, tout se débloque sur le regard des autres, etc. à partir du moment où on sait qu'on n'a rien à prouver aux autres. Si toi tu sais que t'es bien, si toi tu sais que t'es une personne qui peut être aimée, si toi tu sais que tu as de la valeur, bah à ce moment-là t'en as plus rien à faire de montrer aux autres que tu peux être aimée, que t'es intéressante, etc. Puisque toi-même tu sais, et c'est ça le plus important. Parce que la plupart des gens qui en font trop pour justement se modeler aux autres, bah c'est juste qu'ils ont besoin de se prouver à eux-mêmes qui sont acceptables, qui sont aimables, qui méritent d'être valorisés. Ensuite, la deuxième raison, je pense, c'est que vous êtes peut-être mal entouré et vous vous forcez peut-être à traîner avec des gens qui ne vous correspondent pas forcément. Et dans ce cas-là, évidemment que vous cherchez à modifier votre personnalité. Sauf que ça, c'est très mauvais parce que ça vous incite à modifier votre vraie nature et à essayer d'être l'inverse de ce que vous êtes. Et vraiment, pour l'avoir fait pendant une bonne partie de ma vie, quand j'étais au lycée, etc., finalement, je trouve que je l'avais grave normalisé et je me rendais même plus compte sur le moment. Mais ça fait énormément de mal à ta relation avec toi-même et ça peut que baisser ton estime de toi parce que tu dis clairement à ton inconscient qu'il ne faut pas être comme ça. Qu'en étant toi-même, qu'en étant comme ça, tu ne mériterais pas d'être aimé. Et dans ce cas-là, bah, c'est terrible parce que ça peut te créer un cercle vicieux où tu ne vas faire que de t'enfoncer dans la dévalorisation de toi-même. Donc si les gens autour de toi ne t'inspirent pas, te donnent des ondes négatives, si tu vois qu'elles critiquent certains aspects de toi, ne te fais plus souffrir et ne passe plus de temps avec eux parce que dans cet environnement-là, tu pourras jamais évoluer. J'en profitais aussi pour répondre à une question, mais on m'a demandé pourquoi je n'arrive pas à être moi-même avec mes amis, avec mon copain. Bah, je pense que si t'arrives pas à être toi-même avec eux, c'est parce qu'ils sont pas faits pour être tes amis. Et pareil en couple. Et tu t'es peut-être attiré des personnes qui te ressemblent pas parce que justement, tu as fait semblant d'être quelqu'un d'autre, et donc tu t'es attiré des personnes qui correspondaient à ton faux toi. Mais c'est pas très grave, faut pas t'en vouloir parce que je pense qu'on est beaucoup à passer par ce genre de situation-là. Et au moins quand t'auras de vraies relations, tu sauras vraiment voir leurs valeurs. Et aussi, dès que t'arriveras à avoir pris vraiment soin de la relation que t'as avec toi-même, dès que t'arriveras à assumer les parts de toi que tu n'assumais pas trop, comme la timidité, la sensibilité. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un épisode sur les people pleasers, parce que c'est un peu ça qui nous rend vulnérables par rapport aux autres quand on est sensible. C'est pas la sensibilité en elle-même qui nous rend vulnérables, parce qu'on peut très bien être sensible et savoir se faire respecter. Mais bref, quand vous assumerez les choses que vous cherchez pour l'instant un peu à cacher aux gens, vous allez vous attirer des gens qui vous ressemblent et qui aimeront les côtés que vous n'aimiez pas chez vous avant. Et carrément, je vous jure, vous allez vous dire « Mais pourquoi j'ai valorisé ces gens alors que, bah, on n'était pas vraiment les mêmes personnes ? » Enfin, normalement, on n'aurait même pas dû traîner ensemble parce que on se correspondait pas trop. Alors que peut-être à l'heure actuelle, bah, tu fais tout pour leur plaire. Et au final, c'est juste toi-même que tu blesses en faisant ça. En fait, le truc aussi, c'est que dès qu'on s'assume entièrement, on devient beaucoup plus attirant. Parce que montrer aux autres qu'on assume même les côtés pas forcément 100% positifs chez nous, pas forcément bien vus par la société, ça met les gens bienveillants et positifs, en tout cas, les personnes qui sont saines, dans une certaine safe place avec vous parce qu'ils vont savoir que si vous n'avez aucun souci à assumer des côtés négatifs chez vous, bah, vous ne les jugerez pas non plus d'assumer pleinement qu'ils sont eux-mêmes aussi. En plus, vous aurez des relations beaucoup plus authentiques avec les autres parce qu'ils vont vous aimer direct avec vos défauts et ça va aussi vous protéger des personnes mal en elles qui risquent de développer des comportements toxiques parce que si vous vous assumez, si vous vous aimez pleinement, elles chercheront à vous éviter. Les personnes toxiques, elles aiment surtout approcher les personnes chez qui elles voient des petites failles à exploiter et ça n'existe pas chez les personnes qui assument toutes les facettes d'elles-mêmes. Et de toute manière, croyez-moi que quand vous vous forcez à être quelqu'un d'autre, les gens sensibles le ressentent. Ça se voit et votre énergie, votre lumière, le fait que vous soyez une personne lumineuse, vous voyez les personnes qui ont eu des énergies incroyables là dès qu'on les voit rentrer dans une pièce, et bah ce sont des personnes qui s'assument entièrement. Et tant que vous ne le faites pas, vous pouvez pas avoir cette luminosité autour de vous. Vous pouvez pas exploiter votre plein potentiel, vous pouvez pas vraiment glow up si vous êtes dans un état d'esprit où vous vous modelez par rapport aux autres. Et la dernière chose qui fait que vous pouvez être bloqué pour être vous-même, c'est que vous avez peut-être encore des traumatismes à guérir. Perso, c'est quelque chose qui me bloque encore à l'heure actuelle pour me sentir pleinement moi-même dans certaines situations. Le fait que je me sois pas encore remise de certains traumas que j'ai eu dans l'influence et au lycée surtout. Donc parfois, juste un petit truc peut me rappeler ces moments-là, peut me faire revivre ces moments-là et quand ça arrive, bah même si d'habitude je suis super à l'aise, etc., bah quand j'ai un petit trigger comme ça, je peux me sentir totalement bloquée, comme si je pouvais pas agir. Et donc dans ces moments-là, forcément, c'est super difficile pour moi de m'assumer entièrement. Et ça, malheureusement, ça peut se soigner qu'en psychothérapie, même si tout le travail intérieur d'amour de soi, etc., dont je vous ai parlé avant, ça sert quand même beaucoup, il y a quand même des choses qu'on peut pas vraiment guérir soi-même, et dans ces moments-là, on a besoin d'être accompagné. Voilà, voilà, en tout cas, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire, et je vous invite vraiment, vraiment à aller voir l'épisode sur le fait d'accepter ses faiblesses et ses défauts, si vous avez vraiment du mal encore à accepter certaines parts de vous-même. Je vous invite aussi à écouter celui sur le regard des autres, et à le réécouter même si vous en avez besoin, parce que je pense que c'est vraiment important de réussir à se détacher de ça, même si on peut pas totalement n'en avoir rien à faire. Je pense que c'est pour tout le monde la même chose. Ça comptera toujours un petit peu au minimum nos proches, etc. Mais en tout cas, je pense que cet épisode peut vous aider à prendre un petit peu de distance avec le regard des autres et à plus vous assumer aussi. En tout cas, j'espère que l'épisode actuel vous a plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram si jamais vous voulez voir le thème de la semaine prochaine en avance. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup pour tous vos messages, pour toutes vos notes, pour tout l'amour que vous m'apportez en général. Peut-être que vous estimez pas à quel point, mais vraiment, ça me touche au plus profond. Et merci de me laisser avoir une activité qui me permet d'aider les autres. C'est la chose la plus épanouissante pour moi, vraiment. En tout cas, je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Bisous !